Bon, c'est le bon moment pour lire le texte, en pleine période de l'Avent. On se prépare bien à Noël. Je vous rappelle juste, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, la méthode qu'on suit. Je commence par reprendre certains mots, certaines expressions dans le texte, pour en donner soit une définition, soit un contexte historique, géographique, culturel, cultuel, et ensuite des propositions de lecture par rapport à ce qui a été lu. Donc là, la première personne, parce que c'est une personne que nous allons relever, c'est l'empereur Auguste, au premier verset. Donc l'empereur Auguste, hein, si on regarde un petit peu d'un point de vue historique, il est né en l'an moins 63, il est mort en l'an 14, et il a été empereur de moins 27 à 14. Et effectivement, il est connu qu'Auguste a régulièrement édicté des décrets qui visaient à recenser tout l'Empire romain. Alors, quand on lit Luc, on a l'impression que l'empereur Auguste l'a fait une fois pour toutes, hein, avec toute la terre d'un seul coup, mais en réalité, il l'a plutôt fait non pas de manière simultanée, mais par étapes, par région. Chaque région a pu être recensée à son tour. Et il y a autre chose qui nous intéresse avec l'empereur Auguste, c'est qu'il se définissait lui-même comme un divi filius, c'est-à-dire comme le fils d'un dieu. Et on a même retrouvé, à la fin du XXe siècle, à Priene, donc c'est dans l'actuelle Turquie, une stèle qui date de l'an moins 9. Et sur cette stèle, eh bien, il est écrit qu'il y a une bonne nouvelle. Et donc c'est écrit comme ça, bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est à la naissance de l'empereur. Et l'empereur est défini comme étant Dieu et sauveur. Et cet empereur, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que son règne doit établir la paix. Et sa naissance doit établir un nouveau calcul du temps. Donc évidemment, nous, ça nous intéresse particulièrement, mais on en reparlera tout à l'heure. Deuxième personnage qui est cité au verset 2, c'est Quirinius. Quirinius, c'est pareil, il est né à peu près dans à la même époque, hein, moins 45 et il est mort en 21. Et c'est bien celui, on a les traces, hein, qui a organisé le recensement de la Judée. Alors pour la date, ça reste assez approximatif, mais on sait qu'il l'a organisé. Après les deux personnes, on va relever une ville. Verset 4. La ville de David appelée Bethléem. Donc Bethléem, mais vous savez sûrement, en hébreu, Bethléem, Beth la maison, Léhem le pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Et c'est dans la ville de David. Pourquoi? Parce que c'est bien à Bethléem que le prophète Samuel a donné l'onction au nouveau roi, qui est le roi David. On peut retrouver ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, c'est les versets 10 à 13. Vous connaissez sûrement l'histoire. Hein. Le prophète cherche le nouveau roi, parce que le roi Saül a été contre Dieu, donc il faut un nouveau roi, et donc il y a une fratrie. Et donc, on présente au prophète tous les enfants de la fratrie, sauf le dernier, David. Et en fait, c'est lui qui est choisi. Ensuite, il va vaincre Goliath. Vous connaissez l'histoire. Donc, Bethléem, c'est aussi la ville du roi David. Et comme on l'a déjà vu, Joseph est d'ascendance davidique. Donc, il doit être recensé dans sa ville d'origine, donc dans la ville de David, donc à Bethléem. Maintenant, on va au verset 7. Elle mit au monde son fils premier-né, le premier-né. Donc ça ne désigne pas nécessairement le premier-né d'une fratrie. On peut être tout à fait un fils unique quand on est premier-né. Donc des fois, l'argument a été saisi par les tenants d'une fratrie de Jésus, mais ce n'est pas un argument décisif, puisque premier-né ne veut pas dire fratrie nécessairement. Ensuite, verset 8, il y avait des bergers. Alors les bergers, c'est quand même une figure assez, assez intéressante, parce que les bergers, ils sont hyper mal vus. Ils sont mal vus par les autres Israélites, parce qu'ils sont considérés comme des marginaux. Ils vivent souvent dans la pauvreté, donc il y a des suspicions à leur égard aussi d'être malhonnêtes. Et pourtant, c'est assez surprenant, parce qu'au regard de l'Écriture, être berger, ça manque pas de noblesse, quoi. C'est un métier humble, mais c'est un métier noble. On vient de parler du roi David. David, avant d'être roi, il était berger. Pardon? Moïse aussi. On peut penser au psaume. Le Seigneur est mon berger. Donc on définit le Seigneur lui-même comme un berger. Et Jésus lui-même dira, je suis le bon pasteur. Donc on a quand même cette figure du berger qui, d'un point de vue des Écritures, est importante et noble, mais du point de vue de la vie en Judée à cette période-là, le berger, c'est quelqu'un de rejeté. Maintenant, on va aller au verset 10. L'ange dit, ne craignez pas. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça vous parle évidemment parce qu'on a fini là-dessus. Ne craignez pas, comme pour Zacharie, comme pour la Vierge Marie. L'ange, je vous rappelle, qui est le messager de Dieu, apporte cette paix. Ne craignez pas. Et donc cette fois-ci, il l'annonce au berger. Et il annonce aussi au berger que dans la ville de David, on en a déjà parlé, est né un sauveur. Et en hébreu, je vous rappelle que Jésus, ça signifie « Dieu sauve ». Donc il annonce déjà. Et puis, c'est non seulement un sauveur qui est né, mais c'est le Christ. Alors nous, aujourd'hui, ça nous parle évidemment, Christ. Mais comment est-ce que ça pouvait être compris? Parce que le Christ, ça vient du grec « Christos », mais c'est une traduction d'un autre terme, qui est un terme hébreu, qui est le terme « Mashiach ». Et ça signifie « celui qui a été oint par le Seigneur ». Donc ça veut dire que le Messie, c'est une figure tout à fait centrale dans la foi juive, parce que le Messie doit être envoyé par Dieu pour établir un règne qui est un règne de paix. Et toutes les prophéties, eh bien, elles annoncent que ce Messie doit être de la lignée de David. On a vu ça la semaine dernière, Isaïe 11:1-2, qui doit naître d'une vierge. On a vu ça aussi la semaine dernière, Isaïe 7:14. Et puis, il doit naître à Bethléem. Cette fois, ce n'est pas Isaïe, c'est Michée. Michée 5, versets 1 à 3. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut relire tout ça? Eh bien d'abord, je crois qu'il y a une société, la société de l'époque de Jésus, la société de la Judée, qui est disposée à une ère nouvelle. Parce que le fait que l'empereur Auguste se définisse lui-même comme le fils d'un dieu, qu'il ait annoncé que sa naissance est une bonne nouvelle, une nouvelle qui augure un règne de paix, et ce règne de paix, il faut le marquer par un nouveau calendrier, c'est quand même saisissant, tant pour son parallèle avec Jésus que pour celui de l'attente messianique. On a les deux là qui sont en jeu. Eh bien ce parallèle, je crois qu'il nous invite à voir plus loin qu'une simple coïncidence ou qu'un fait anecdotique. Parce que c'est un parallèle qui souligne en réalité qu'il y a une attente qui est profonde, une attente qui est inscrite dans l'histoire. Et c'est exactement ce que Saint-Luc s'efforce de démontrer, hein, qu'il y a un changement, qu'il y a un monde nouveau, qu'il y a un règne de paix qui est partagé tant par une nation particulière, le peuple israélite, que par un royaume qui lui a une visée universelle. Ça, c'est l'Empire romain. Donc on peut penser que le moment semble être venu pour Dieu d'envoyer Jésus, d'envoyer le Messie qui est issu d'un peuple, le peuple israélite, pour porter au monde un message, une bonne nouvelle, qui est un message universel. C'est l'universalité du salut qui va concerner tous les hommes. Et c'est donc l'inauguration d'un temps nouveau, celui du règne de Dieu, qui est un règne de paix. Et les premiers chrétiens ne vont pas s'y tromper, parce qu'ils vont rapidement désigner Jésus comme étant le prince de la paix, en référence à Isaïe. Sans parler de notre calendrier, qui lui vraiment marque un temps nouveau, puisqu'on le commence en l'an zéro. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que cet empereur qui est une figure de toute puissance dans son empire s'auto-désigne comme étant fils de Dieu, comme étant sauveur, comme étant celui qui a apporté un règne de paix, comme étant celui qui doit établir un calendrier nouveau. Et en réalité, c'est l'enfant de la crèche qui semble pour le coup bien innocent et bien faible qui va l'accomplir. Et donc ça rentre pleinement dans le dessein de Dieu. Hein. Il choisit le plus petit de tous les peuples, le peuple d'Israël, qui est le peuple élu, alors qu'il y a toutes les nations puissantes autour. Mais c'est parce qu'à travers ce petit peuple, il peut révéler son existence et sa puissance. Là, c'est la même chose. Une autre proposition de lecture que je vous fais, c'est la naissance de Jésus qui préfigure déjà sa mort. Parce que tout comme Jésus va être enveloppé d'un linceul, comme il va être déposé dans un sépulcre, eh bien il est déjà emmailloté et couché dans une mangeoire. Et de même, naître à Bethléem dans la maison du pain, ça préfigure la scène où Jésus dira à propos du pain « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et saint Grégoire le Grand dira même que Jésus est pour nous le pain vivant depuis sa naissance, depuis la mangeoire. On peut parler du Gloria aussi, parce que la gloire, le gloire à Dieu qu'on chante à la messe, sauf en ce moment, parce que c'est l'Avent, mais qu'on chantera à plein poumon dans la nuit de Noël, eh bien, il trouve son origine dans l'annonce des anges aux bergers. Et comme les rois mages se sont rendus auprès de Jésus, Jésus enfant, Jésus bébé, eh bien, nous sommes présents, nous aussi, auprès du Christ, qui se fait pour nous Eucharistie, lorsque nous allons à la messe. Et on s'unit alors à ce moment-là aux paroles du cœur des anges pour signifier notre joie, qui est une joie de participer à l'événement qui est célébré. Donc comme au moment du Sanctus, juste avant, le prêtre dit « Avec les anges et tous les saints, nous chantons », en fait, il faut bien penser que pendant la messe, il y a toujours ce lien entre l'Église terrestre et l'Église céleste, et que déjà, lorsqu'on chante le Gloria, on le chante uni à la voix des anges. Maintenant, je vous propose qu'on regarde l'attitude des bergers, parce que cette attitude, elle est très intéressante. D'abord, ils écoutent la parole des anges, les messagers de Dieu. Ensuite, ils répondent à l'invitation qu'il leur est faite d'aller voir l'enfant. Et parce qu'ils ont écouté la parole des anges, ils sont capables de reconnaître en l'enfant, qui est couché dans une mangeoire, que c'est bien lui, le Seigneur, le Sauveur, le Christ. C'est la parole de Dieu qui a pu ouvrir leurs yeux. Donc ça, c'est les deux premières étapes. D'abord, ils écoutent, ensuite ils vont voir. Et la troisième étape, eh bien, les bergers se trouvent mus parce qu'ils ont vécu et ils se font déjà missionnaires. Parce qu'ils vont témoigner à tous de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Et ça, ça nous intéresse aussi parce qu'on a bien dit que les bergers, ils étaient en marge de la société. Et là, ils vont se retrouver au cœur de la société pour annoncer quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour défendre leurs droits, ils ne sont pas en train de manifester. Ils sont là pour parler du Christ. Ils sont là pour être les premiers héros de la bonne nouvelle. Ils sont les premiers invités et ils sont les premiers héros. Et donc, évidemment, ça nous parle parce que c'est aussi notre mission de disciple. D'abord, écouter la parole de Dieu, ensuite, contempler le Christ, et être capable de le reconnaître, et enfin, être témoin et héros des merveilles de Dieu au cœur du monde. Et des fois, on se sent un peu marginalisé quand on est catho, quand même. Bon, heureusement, ce n'est pas une règle générale. Et enfin, dernière proposition de lecture, l'attitude de la Vierge Marie, parce qu'on l'a entendu, hein, Marie se laisse voir ici comme un modèle de prière. Elle retient tous les événements dans son cœur, on est habitué à l'entendre, elle les médite aussi dans son cœur. Et donc, ça veut dire que, alors qu'elle vient juste de mettre au monde le Fils de Dieu, eh bien, elle conserve désormais en son sein les œuvres de Dieu. On a une espèce d'échange. Elle donne ce Fils de Dieu, et maintenant, elle reçoit et elle médite en elle les œuvres de Dieu.